Un moine bouddhiste, un médecin, psychiatre, un philosophe réunis ensemble pendant 10 jours dans une maison au cœur d'une forêt en Dordogne ouvrant sur la vallée de la Vézère. Un rendez-vous d'échange sur leurs expériences, leurs convictions et pour éclairer les questions que chacun se pose dans l'existence. Le livre aurait pu s'appeler « Trois hommes dans un hameau », « Les tontons flingueurs de l'ego » ou encore « Les pipelettes du Périgord ». Mais l'iconoclaste et les éditions Alary ont choisi plus sobrement trois amis en quête de sagesse. Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard publient un guide pratique dans lequel ils parlent entre autres de la bienveillance, de l'écoute, de l'ego et de l'altruisme. Christophe André et Mathieu Ricard sont mes invités dans un instant et j'attends pour eux vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Néandertal a-t-il disparu en raison de la supériorité culturelle d'Homo sapiens? Une étude le laisse entendre et c'est aujourd'hui la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, le mystère demeure depuis des années. Pourquoi Néandertal a-t-il disparu lorsque Sapiens l'a rejoint en Europe il y a 45 000 ans? L'hypothèse donc culturelle aujourd'hui à la une de la science.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette nouvelle Tête au Carré.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Trois amis en quête de sagesse et je reçois donc deux d'entre eux cet après-midi, Mathieu Ricard et Christophe André. Bonjour,
bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Mathieu Ricard, est-ce que vous avez le sentiment que l'idéal de sagesse est en train de revenir en force dans nos sociétés?
Je crois qu'il a des hauts et des bas dans la façon dont on le perçoit, mais malgré tout, comment se passer des fondations d'une maison, si vous voulez. On peut dire, la fondation de maison est toujours là. La sagesse est parfois oubliée, mais en même temps, nous avons tous tellement besoin de cette idée de voir les choses de façon plus vaste, à plus long terme, avec plus de perspicacité, de lucidité, de liberté intérieure par rapport à tous les dogmes et nos enchaînements de pensées sauvages. Donc je pense que la sagesse a toujours été et sera toujours d'actualité.
Christophe André, vous avez été l'un des tout premiers à introduire la méditation à l'hôpital. On voit aujourd'hui cette pratique prendre beaucoup d'ampleur dans nos pays. Est-ce que c'est facile de bien méditer?
Alors, c'est facile de méditer. Vous savez, c'est compliqué la méditation. On recommande, par exemple, lorsque quelqu'un veut méditer, on lui recommande de se débarrasser de cette idée, justement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce que déjà, on va se prendre la tête sur des notions de perfection, de performance. Méditer, c'est comme marcher. Il suffit de le faire, il suffit de le faire régulièrement pour que les vertus arrivent. Et donc, bien méditer, c'est méditer. Du moment que vous méditez, même si ce jour-là, votre esprit part dans tous les sens, même si ce jour-là, vous avez mal au dos, vous l'avez fait. Vous êtes assis, vous êtes centré sur ce qui se passait en vous et autour de vous. C'est super, c'est parfait, c'est bien.
On va se retrouver dans un instant autour de votre ouvrage « Trois amis en quête de sagesse » et puis donc les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. C'était donc il y a 45 000 ans, Néandertal croisait la route de Sapiens et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Quand Néandertal découvre Sapiens, il est fasciné par son apparence, ses parures, ses habits, ses bijoux. La sophistication de ses outils et de ses armes n'en finissent pas de l'étonner. Quand Sapiens se retrouve face à Néandertal, elle le prend pour une brute sous-développée et ignorante, un sauvage, un anthropophage.
Mais gars ! Mais gars ! Mais gars !
Et si ces différences culturelles étaient justement la clé de la disparition rapide de Néandertal après sa rencontre avec Homo sapiens, une équipe de chercheurs américains et japonais propose en tout cas une approche originale pour répondre à cette question. Ils publient cette semaine une simulation mathématique des interactions entre les deux groupes Néandertal et l'homme moderne publiée dans les PNAS. Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig et vous êtes actuellement en direct avec nous par téléphone depuis New York. Expliquez-nous d'abord comment ces chercheurs ont construit leurs travaux, parce que c'est une forme de mise en équation de la rencontre entre les deux espèces, hein, c'est ça?
Oui, en fait, ils ont mis en œuvre des outils mathématiques qui sont utilisés de façon assez courante, hein. C'est de la modélisation pour comprendre les interactions entre des espèces différentes qui sont en compétition dans une même niche écologique. Donc ils ont appliqué ça à nos néandertaliens et à nos hommes modernes.
C'est une équation, hein, c'est ça, qui s'appelle l'octavoltera, hein, pour être tout à fait précis.
C'est un très joli nom.
Ouais, c'est ça.
Quand on parle de la supériorité culturelle de Sapiens, de quoi on parle exactement à cette époque-là?
Alors, y a un grand débat là-dessus, hein, c'est-à-dire de savoir en fait si les différences culturelles qu'on observe entre néandertaliens et hommes modernes sont des différences, j'allais dire cosmétiques, ou si elles s'enracinent dans des différences cognitives intrinsèques, si je peux dire. Ce qu'il faut bien comprendre quand même à propos de la culture, entre guillemets, c'est que quand les préhistoriens parlent de culture, très souvent, ils parlent en fait de culture matérielle. Et il y a tout un aspect de la culture qui est très important pour le succès d'un groupe humain, et en particulier son organisation sociale et la complexité des interactions entre individus et entre groupes. Et ça, malheureusement, généralement, on n'y a pas accès. Alors donc, dans cette étude, l'intérêt, justement, c'est non pas de nous décrire ce qui s'est passé, hein, mais de simuler l'effet de petites différences, justement, dans des domaines pour lesquels on n'a pas forcément d'informations.
Donc c'est un scénario possible qui serait basé sur quoi, au fond, Jean-Jacques Hublin, sur des atouts technologiques d'Homo sapiens par rapport à Néandertal, hein?
Alors il y a les deux choses, hein. Il y a des avantages techniques, ça peut être dans les armes, les techniques de chasse, les vêtements, tout un tas de choses de ce genre-là. Et puis encore une fois, il y a aussi des aspects qui sont des aspects sociaux qui sont très importants pour le succès des groupes humains.
Par exemple?
Eh bien, tout bêtement, hein, l'étendue des relations qu'on peut avoir avec d'autres individus, c'est-à-dire est-ce que ces relations sociales, elles se limitent à l'intérieur d'un petit groupe de 20 ou 30 individus, ou est-ce qu'elles s'étendent sur des réseaux géographiques à grande distance, hein, et ça fait encore une fois une grande différence.
Est-ce que les traces de métissage qu'on trouve de plus en plus entre Sapiens et Néandertal ne vont pas un peu à l'encontre de cette idée toujours de confrontation entre les deux groupes ?
Ah ben là, il n'est pas question forcément de confrontation, hein. Il est question plutôt de compétition.
Le modèle, à la base, c'est un modèle prédateur-proie, le modèle mathématique qui a été utilisé, donc ça veut bien dire qu'il y a une chasse entre les deux quand même.
Ah non, chasse, c'est pas. Je crois que c'est un peu extrême comme expression. Non, l'idée de départ, c'est que en fait, néandertaliens et hommes modernes, en gros, ont quand même un style de vie très proche, c'est-à-dire qu'ils exploitent les mêmes animaux, ou presque les mêmes animaux. Ils ont un style de vie qui est très très proche, et donc ils ont ils sont en compétition en fait pour des régions, des territoires, des ressources. Ça implique pas forcément une chasse à l'homme, hein. Simplement ce que prennent les uns dans la nature, les autres ne l'ont pas, hein, tout bêtement, hein. Donc ça a un effet sur le succès reproducteur, sur la démographie, sur des paramètres de cette nature. Un modèle qu'on peut peut-être évoquer, c'est celui des populations de langues bantoues en Afrique qui ont été liées à l'expansion de l'agriculture et qui ont occupé des territoires qui étaient favorables à l'agriculture, et donc au détriment de chasseurs-cueilleurs qui se sont retrouvés, comme les pygmées par exemple, qui se sont retrouvés vivant dans la forêt dense. Alors ce sont des populations qui échangent, qui même échangent des individus. Mais le fait est que, bon, bah, sur le plan démographique, les premières populations se sont développées énormément, et les autres se sont réduites considérablement au cours des derniers 5 ou 6 000 ans.
Oui, pour terminer sur l'hypothèse culturelle, pour vous, c'est dans cette direction qu'il faut chercher quand il faut chercher à comprendre la supériorité de l'homme moderne?
Ben, c'est-à-dire que, enfin, moi je trouve un des intérêts de cette étude, hein, c'est de montrer que il n'est pas besoin d'invoquer des différences très importantes en fait, hein. Donc on s'éloigne d'un modèle un peu caricatural de l'homme moderne, beau, grand et intelligent, et de l'homme de Néandertal, qui sera une espèce de...
De grosses brutes épaisses, comme d'habitude.
De chimpanzés échappés d'un zoo. Donc, ce qui montre très bien, c'est que l'interaction de la démographie et de faibles différences sur le plan cognitif, par exemple, les capacités d'apprentissage, suffisent. Hein. Et ça, on en a des indices, en particulier avec l'étude du génome néandertalien. On a une série de un peu plus de 80 gènes dont on sait qu'ils ont muté chez l'homme moderne et qu'ils sont représentés chez tous les hommes modernes actuels. Et parmi ces gènes-là, il y en a quand même 7 ou 8 qui sont directement liés au cerveau, à son fonctionnement, à son développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan du phénotype, c'est-à-dire sur le plan de l'expression de ces gènes dans le comportement, dans les capacités, on sait pas trop, mais quand même ça implique justement cette petite différence.
Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin en tout cas pour cet éclairage à l'occasion de cette parution donc sortie cette semaine et qui propose donc un modèle mathématique pour en connaître un peu plus sur la disparition de Néandertal face à l'homme moderne. Vous étiez en direct de New York. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si l'utilisation d'un mixeur ou d'une tondeuse à gazon fait rougir votre peau, vous donne des maux de tête ou fait apparaître un drôle de goût dans votre bouche, eh bien c'est que vous souffrez d'une allergie héréditaire très rare aux vibrations, appelée urticaire vibratoire, mais pas de panique. Une équipe de chercheurs américains vient tout juste de percer le mystère de cette drôle d'affection. Elle serait due à une mutation génétique de certaines cellules de la peau. Plus fragile chez ces personnes, de simples vibrations y déclencheraient une cascade de réactions immunitaires dont la libération d'histamine responsable de l'urticaire. Un feu vert pour la recherche sur l'embryon en Angleterre. L'autorité anglaise pour la recherche et la reproduction vient d'autoriser une série unique d'essais techniques de modification d'ADN d'embryon humain. La seule limite, ne pas dépasser le stade de croissance correspondant à 250 cellules après une fécondation in vitro, un stade qui équivaut à une semaine de développement. L'autorisation délivrée ne concerne que des recherches fondamentales et ne vaut que pour un seul laboratoire qui va tenter de désactiver de façon sélective certains gènes du développement de l'embryon impliqués dans la différence des toutes premières cellules. Et puis pour terminer, la police allemande entraîne des aigles pour combattre les drones malveillants. Dans un communiqué dévoilé lundi, elle annonce s'être associée à une entreprise d'élevage pour tester les capacités de ces oiseaux à mettre hors d'état de nuire différents types de drones. Les aigles sont donc entraînés à reconnaître les drones comme des proies et une vidéo apporte d'ailleurs les démonstrations impressionnantes des premiers essais. C'est à voir sur le Facebook de la Tête au Carré. And I dream you will awake from safely in your golden submarine beneath the waves to the bottomless blue. et The Shoes avec Submarine.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le médecin psychiatre Christophe André, le philosophe Alexandre Jolien, trois amis en quête de sagesse, réunis donc dans un livre qui sort chez l'Iconoclaste et aux éditions Alary. Mathieu Ricard et Christophe André sont donc avec nous cet après-midi. Vous pouvez bien sûr nous envoyer pour vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Alors l'histoire de ce livre, Mathieu Ricard, c'est donc 10 jours dans une maison en Dordogne, en plein cœur de la forêt, pour parler de quoi? De vos expériences respectives au fond, de vos convictions? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec les lecteurs? Au fond, vous leur avez déjà dit beaucoup de choses quand même, non?
Oui, mais vous savez, comme le dit très bien notre ami Alexandre, c'est pas trois jeux qui se mettent ensemble, qui font une sorte de mosaïque, c'est un nous qui émerge, et vous êtes scientifique, vous savez qu'un phénomène émergent est plus que la somme des unités.
Ouais.
Et donc ça faisait des années en fait qu'on voulait faire ça, et à un moment donné, Alexandre Jolien avait fait une liste qui recouperait à peu près tout ce que l'humanité a, à quoi a pensé depuis 2500 ans. Donc finalement, on s'est centré de façon très spontanée et dynamique sur les questions qui nous semblaient, qui nous préoccupaient. Et on s'est dit, si nous préoccupe après toute une vie passée à réfléchir, à vivre, peut-être qu'elle pourrait aussi intéresser nos lecteurs.
Oui, Christophe André, il y avait encore des questions auxquelles vous n'aviez pas répondu encore?
Des questions, en tout cas, auxquelles on n'avait pas prêter attention, en tout cas en ce qui me concerne, et puis surtout des questions dont nous n'avions jamais débattu tous les trois, parce que finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons trois regards qui prennent des angles très différents. Mathieu est un moine, donc il a une vision qui est marquée par toute cette spiritualité, toute cette philosophie bouddhiste. Alexandre, évidemment, philosophe, avec son parcours très particulier lié au handicap, qui a un regard à la fois très rationnel de philosophe et très sensible aussi. Et puis moi, qui suis un médecin, qui me faisait parfois l'avocat des patients, disant « Mais les gars, c'est bien ce que vous dites, mais c'est dur aussi parfois d'y arriver. » Donc, c'est ces tirs croisés qui étaient nouveaux pour beaucoup de points.
Alors, c'est vrai que chacun semble avoir un rôle, finalement, dans ce trio. Alors, vous, Christophe André, justement, vous apparaissez comme le solitaire de la bande, en tout cas, c'est ce que vous dites, hein, ce qui semble assez paradoxal, puisque justement, vous rencontrez quand même beaucoup de monde tous les jours à l'hôpital.
Oui, oui, ben, je suis un modèle, mais qui est assez répandu, je pense, de solitaire sociable. C'est-à-dire, j'ai besoin de beaucoup de temps de solitude pour me sentir bien. Je crois que c'est quand je suis seul que je peux bien réfléchir, calmement, etc. Mais évidemment, j'adore être avec d'autres humains, notamment mes amis, et notamment les patients. Mais alors que Mathieu et Alexandre sont, à mon avis, mais il faudra que Mathieu nous confirme, des extravertistes. Et vous savez, dans l'extraversion, qui est une catégorie psychologique qu'on étudie hein, dans notre discipline, les extravertis sont des gens qui prennent un grand plaisir à l'échange et surtout pour qui l'échange est une stimulation et non pas une agression. La présence des autres les rend plus féconds intellectuellement. Oui. Moi, ça me sidère un tout petit peu. C'est un vieux fond de timidité. Oui. C'est pas tout à fait le cas.
Alors, Mathieu Ricard, c'est aussi votre robustesse à la fois physique et psychologique hein, qui semble en tout cas vous caractériser aux yeux de vos deux compères.
J'ai découvert ça.
Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi ça l'un des effets d'une pratique intense du bouddhisme, c'est parvenir à cette solidité physique et psychique?
Vous savez que la robustesse, finalement, c'est un terme qu'on néglige. C'est bien, on parle souvent de résilience, de force intérieure, mais la robustesse, c'est
mais
un
le mot
très
très
bon
juste,
mot.
Absolument.
C'est un très bon mot.
Et quand on pense au bouddhisme et à cette pratique intense, on peut, c'est ce que ça peut évoquer justement. Et
oui, trouve. Parce que nous, on met ça dans des termes un peu plus sophistiqués, dans le genre de dire cultiver peu à peu les ressources intérieures nécessaires pour faire face au bas de l'existence sans être déstabilisé. Robustesse, c'est un mot.
Oui, puis il y a quelque chose de très ancré, très présent aussi dans la robustesse.
Exactement, parce qu'on peut dire que la pratique, en tout cas, du bouddhisme, alors, on parle de solitude. Moi, je suis un solitaire parce que j'ai passé 5 ans en retraite solitaire, mais en même temps, effectivement, j'aime beaucoup être avec les autres. Et même quand je suis en retraite face à l'Himalaya tout seul, tous les autres sont dans mon cœur et la plupart de mes pratiques sont fondées sur la compassion. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très terre à terre parce que c'est quelque chose qui se cultive et qui doit être disponible dans le feu de l'action. C'est-à-dire, on dit un méditant qui est un bon méditant quand il a le ventre plein assis au soleil, attendons de voir un peu ce qui se passe quand il est confronté à des situations difficiles. Et c'est là où le méditant est mis sur la balance. Donc c'est très pragmatique. Et cette robustesse vous permet justement de passer au travers des hauts et des bas de l'existence, aussi bien de ce qui peut vous toucher intérieurement, des circonstances parfois adverses que vous rencontrez à l'extérieur, disons, en gardant cet espace intérieur, cette lucidité, sans se faire désarçonner, sans être non plus passif, mais en ayant, comme un peu comme, je compare avec un bateau. Moi, j'ai beaucoup navigué quand j'étais petit. La différence entre un bateau avec une quille bien plombée, lestée, qui fait que même s'il y a une forte gîte, le bateau se remet, et un petit dériveur, il y a un coup de vent, il chavire.
Mais vous vous sentez un homme robuste et solide?
Vous pouvez le dire de vous. À force qu'on me le dit, je finis par le croire.
Mais vous, justement.
Oui, parce que par exemple, pour la santé, j'ai pas eu d'assurance pendant 35 ans. J'ai heureusement, parce que ça m'aurait coûté plutôt des sous qu'autre chose, mais j'ai rien dépensé. Donc, je suis en très bonne santé à 70 ans. C'est vrai qu'il y a des moments où on est forcément triste quand on voit des choses qui sont tristes. On peut aussi être contrarié quand il y a des projets qui vous sont chers, notamment dans le monde de l'humanitaire ou bien dans le monde de l'environnement. Mais en même temps, on est robuste parce qu'on se dit, bon, ok, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont les solutions possibles? Et on tourne la page, on ne pleure pas sur ses cendres, on essaie de renaître de ses cendres.
Christophe André, vous redites dans ce livre, parce qu'on l'avait évoqué précédemment dans un autre ouvrage avec vous, à quel point vous vous sentez profondément inquiet, pessimiste et introverti. Et on se dit, mais c'est fou, parce qu'après toutes ces années de pratique là aussi de la méditation, au fond, ça ne change pas beaucoup la nature humaine?
Si, ça change la nature humaine, mais ça ne change pas notre passé qui est toujours là et nos réflexes qui sont toujours là. Vous savez, l'enjeu de toute forme de psychothérapie, de développement personnel, de travail sur soi, un des enjeux de notre livre, c'est d'essayer d'aider nos lecteurs à devenir des meilleurs humains. C'est quoi être un meilleur humain? C'est quelqu'un qui ne va pas forcément, comme le disait Mathieu à l'instant, ne jamais être triste, ne jamais être inquiet, ne jamais être en colère, mais qui va l'être plutôt quand il y aura lieu, quand il y aura des vraies raisons, qui ne va pas l'être de manière trop intense, trop durable, mais progrès, car j'en ai fait, heureusement, sinon ça serait décourageant et pour moi et pour les lecteurs, réside là-dedans. C'est-à-dire, je suis toujours potentiellement inquiet ou triste ou soucieux, mais très rapidement, je repère le truc, je me vois partir dans ce virtuel de mes inquiétudes et je reviens au réel. Vous savez, beaucoup de nos souffrances sont des souffrances que nous nous infligeons nous-mêmes parce que nous sommes embarqués dans le virtuel de nos anticipations, de nos amplifications,
de nos ruminations,
voilà. Et sans rendre compte et revenir aux difficultés réelles, qu'est-ce qui se passe vraiment qui me fait souffrir? Ça simplifie énormément la vie. Ce sont ces progrès-là que j'ai fait malgré tout.
Mathieu Ricard, vous revenez au début du livre justement sur ce terme de développement personnel qui fait parfois plus penser à un rayon New Age dans une librairie qu'à une pratique de pleine conscience. Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté au fond autour de ce terme?
Oui, parce que très souvent, ça a été un peu récupéré, il faut le dire. Parce que les gens, on est un petit peu dans l'âge du narcissisme ou tout au moins de l'individualisme. Aux États-Unis, on parle même d'une épidémie du narcissisme. Une très bonne scientifique, Jane Twenge, a écrit tout un livre là-dessus. Donc c'est un risque. Donc c'est vrai que le développement personnel pourrait être récupéré. On se met confortablement dans le cocon de la bulle de l'ego. On médite comme dans un spa, une sorte de spa spirituel. Et foutez-moi la paix, je médite. Donc si vous voulez. Donc le développement personnel pour un petit peu bichonner le narcissisme, c'est franchement, là c'est très triste. Mais oui, développement personnel, mais pour qui et pourquoi? Donc si c'est pour devenir, comme dit Christophe, un meilleur être humain, et de ce fait de pouvoir se mettre mieux au service des autres, parce qu'on se sent moins vulnérable. Si vous êtes tout le temps vulnérable, vous voulez protéger cet ego aussi fragile ou autre. Donc vous êtes très méfiant du monde extérieur, puis après vous essayez de l'instrumentaliser pour parvenir à vos fins. Si vous avez cette certaine robustesse, puisque maintenant c'est un mot que nous employons
plus
souvent.
Voilà, on veut l'adopter.
Et bien à ce moment-là, vous êtes moins, vous savez que vous allez retomber sur vos pattes un peu comme un chat qu'on lance en l'air, et de ce fait vous êtes beaucoup plus ouvert et disponible aux autres. Vous avez l'occasion d'y penser parce que vous n'êtes pas trop préoccupé par vous-même. Donc, développement personnel, mais dans le sens de transformation intérieure pour mieux se mettre au service des autres.
Et la question de l'ego, on va en parler avec vous dans un instant. Ça nous concerne tous, évidemment, et les auditeurs avec les messages franceinter.fr.
À Londres, même, on peut à peine lever le doigt. Loin, en bas, le barrage et son fracas. De là, la rumeur vient de là, d'entre les ifs. La rumeur vient de là, d'entre les ifs. pris le fusil et le vin. On ne sait pas bien comment va le haut du pays. On ne sait rien ici. Déjà, le silence faisait son poids. Demain, reviendra, ne reviendra pas. De là, la rumeur vient de là, d'entre les ifs. La rumeur vient de là, dans tous les ifs. J'ai pris le fusil et le vin au creux de ma main. Un lac, soudain, on ne sait pas bien comment.
Sainteté, je voudrais savoir quel est le message principal que Bouddha a légué, selon vous.
I think non-violence.
Je crois que c'est surtout un message de non-violence,
tolerance.
La tolérance,
based on compassion.
Une tolérance qui s'appuierait sur la compassion
respect
et le respect d'autrui.
I think that's the...
Je crois que c'est son principal message.
Voilà, c'était en octobre 1996, le Dalai Lama, invité de la Marche du siècle. Et d'ailleurs, Mathieu Ricard, vous étiez présent.
Oui, c'était la première fois que je quittais depuis 25 ans mes montagnes tranquilles dans l'Himalaya pour revenir dans le tourbillon occidental.
Ouais. Le Dalai Lama, c'est un maître pour vous ?
Ah bah tout à fait sûr, oui. Parce que c'est quelqu'un qui s'est passé une semaine avec lui. C'est un bain de jouvence humain et spirituel parce que il est absolument transparent, c'est-à-dire qu'il est totalement le même avec un président de la République et puis la personne qui nettoie l'hôtel sur le palier, là, c'est un être humain, aucune différence, c'est formidable.
Est-ce que vous-même vous considérez comme un maître?
Alors là, c'est
toutes les personnes qui vous croisent et qui vous lisez. Je poserai la même question à Christophe André, d'ailleurs.
C'est pas de mal à veille. Hein.
Pourquoi?
Je suis un perpétuel étudiant, disciple, parce que je mesure la... Si vous voulez, on pourrait toujours passer... Un charlatan, c'est très facile, il se donne une posture, il se... Je suis ceci, cela... Mais quand on a connu des très grands maîtres spirituels, et moi j'en ai connu des extraordinaires, je veux dire, c'est comme de comparer, on dit en tibétain, il y a un proverbe qui dit comparer le lièvre avec le saut du tigre, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Donc du coup, la modestie est de rigueur.
Ouais. Pourtant, vos lecteurs en particulier vous considèrent comme un guide spirituel et vous avez un rôle en cela.
On peut être un penseur ou un écrivain qui est un pont, qui partage des idées qui sont essentielles, et je ne les ai pas inventées la plupart, quasiment tout le temps, qui sont précieuses donc, et être le véhicule de ça sans pour autant se poser comme quelqu'un qui peut, en quelque sorte, guider la vie d'autrui. Ça, c'est une responsabilité immense. Et que
Christophe André, alors, auprès de ce public qui vous attend quand même toujours à chacun de vos livres et qui va vous rencontrer, qui vous parle et qui vous suit aussi beaucoup, qui écoute vos paroles.
Oui, bien sûr. On voit bien, en tout cas, que ben nous, comme le dit Mathieu, on ne se sent absolument pas des maîtres. On voit bien tout ce qui nous sépare des véritables maîtres, si tant est qu'il y ait des véritables maîtres. D'ailleurs, on peut se poser la question. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont des sources d'inspiration, capables de délivrer des enseignements d'une complexité, d'une richesse énorme, infinie, et qui sont totalement cohérents. C'est-à-dire qu'effectivement, leur manière d'être correspond parfaitement à leur enseignement. Mais ce que nous voyons, en tout cas, c'est que nous sommes des sources d'inspiration. Nous avons tendance à être idéalisés par nos lecteurs, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc, on ne cherche pas forcément ça, mais on l'assume. Lorsqu'on voit que nos livres sont lus par beaucoup de monde, lorsqu'on voit que nos paroles sont écoutées par beaucoup de monde, ça nous donne une grande responsabilité. Ça nous donne le souci de ne rien écrire, que nous n'ayons pas soigneusement pesé, relu, réfléchi, en nous posant la question... Quel va être l'impact de ce qu'on écrit? Quelle aide ça va apporter? Est-ce que ça va apporter de la confusion? Est-ce que ça va entraîner sur des fausses pistes? Ou est-ce que ça va peut-être éclairer? Donc, à ce titre, voilà, on est considéré par certains comme des bons modèles ou des bons pédagogues, mais nous, on est vraiment des petits apprentis laborieux et joyeux. Ouais. On est très joyeux hein, sur cet apprentissage de la sagesse. Ça nous plaît, on y va, on fait de notre mieux, mais la route est longue.
Mathieu, mais on en croise quand même aujourd'hui des personnages suffisamment charismatiques qui seraient des égaux de Socrate ou du Dalai Lama,
oui,
justement.
Charismatique, il faut faire attention à ça. Moi, je connais beaucoup de très grands maîtres ou d'ermites qui n'étaient pas forcément charismatiques. Puis en passant du temps avec eux, vous apercevez qu'ils ont une sagesse, justement, une connaissance et une bonté, une robustesse.
Il est là, leur charisme, au fond.
Qui, au fil du temps, vous apparaît comme une évidence et comme une source d'inspiration immense. Mais allez voir à la première vue, il y en avait de très célèbres au Tibet qui justement, personne ne les voyait parce qu'ils étaient comme des ermites errants et souvent, ils avaient écrit des textes très profonds, mais ils venaient écouter quelqu'un d'autre enseigner les textes qu'ils avaient écrits en étant assis au fond du temple. Donc, si vous voulez, ça n'implique pas forcément que vous soyez une figure publique, mais une source d'inspiration, c'est quelqu'un justement qui a une cohérence parfaite, mais pas avec n'importe quoi. Parce qu'on peut dire qu'Hitler était cohérent avec son message de destruction et de barbarie. Mais là, c'est cohérent avec la sagesse et avec la compassion. Alors ça, c'est très différent.
Est-ce que le Dalai Lama fait plus rêver que Tom Cruise aujourd'hui?
Alors justement, on a pas mal parlé de cette étude qui avait été faite. On demande aux gens qui est la personne que vous admirez le plus, le Dalai Lama ou Tom Cruise. Et les 90% disent Dalai Lama. Puis on dit, ben, finalement, si vous aviez à choisir qui vous voudriez être, alors là, 80% choisissent Tom Cruise. Ils se disent, bon... Tom Cruise, pour ce qui est de la fortune, de la beauté, de la célébrité, et après je deviendrai sage, ça c'est mon affaire. C'est paradoxal quand même.
Ouais, c'est paradoxal. Oui, et puis c'est nos ambiguïtés, c'est-à-dire on aime la sagesse, mais finalement on a envie de vivre comme des stars. On préférerait vivre comme une star d'Hollywood en ayant la sagesse du Dalai Lama, on voudrait cumuler les deux. Or, souvent la sagesse nous entraîne vers le moins. Moins d'attachement matériel, moins de recherche d'honneur, d'image, de statut, d'ego. Donc, c'est parfois pas toujours compatible. Oui. Et c'est pour ça que personnellement, moi, je me sens loin d'être un véritable sage.
Ça montre aussi que les gens s'imaginent, oh, c'est beaucoup plus dur d'être beau physiquement, célèbre et riche. La sagesse, bon, je vais y arriver. Ouais. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Vous pouvez gagner à la loterie et être pas sage du tout.
Oui, bah,
la sagesse, c'est une affaire d'une vie.
Oui, et puis il faut essayer de méditer
toute
la journée, par
exemple.
Donc
si on avait la sagesse dès le départ, moi, je serais preneur.
Ouais. Alors vous, Mathieu Ricard, justement, vous partagez votre vie, votre temps, entre la contemplation, justement, et le monde moderne. Hein. Vous êtes vraiment toujours à cheval entre les deux, entre la spiritualité et même la science, puisque vous avez fait des travaux pour des neuroscientifiques. Cette vie où vous naviguez justement entre deux mondes, c'est un défi spirituel au fond pour vous au quotidien ou pas?
Ben, c'est surtout un défi à mesure que l'âge avance, parce que je me dis, bon, attendez, je vais continuer à faire ça tout le temps ou faire le clown à droite à gauche?
Ouais. Vous avez l'air en forme quand même. Hein.
Oui, mais bon, ceci dit, en forme, mais pour combien de temps? Parce que quoi qu'il arrive, moi qui ai quelques gènes justement, qu'on m'introduise un gène de longévité. Donc, si vous voulez, à un moment donné, la raison pour laquelle je suis venu en Inde la première fois il y a 50 ans, c'était bien pour méditer, pour pratiquer, pour être auprès de grandes sources d'inspiration. Donc, j'ai une profonde aspiration à faire ça. Et c'est vrai d'être un peu tiraillé parce que le fait que maintenant nous avons une certaine audience, qu'on peut partager des idées dans toutes sortes de milieux, aussi bien, je dirais, dans le monde de la science, par collaborer à des recherches sur l'entraînement de l'esprit, que partager des idées au niveau sociétal. Donc c'est un peu un dilemme, comment je partage mon temps entre ces deux activités fort différentes, il faut le dire.
Larry nous dit l'expression « capacité au bonheur » me gêne, car elle sous-entend que les malheureux seraient des incapables au bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que ni l'un ni l'autre ne sont d'accord. Pour dire en deux mots, je crois que aussi bien les psychologues, les neuroscientifiques et les contemplatifs sont tous d'accord que nous avons des potentiels différents pour cette faculté de s'épanouir. Mais que tout potentiel peut être actualisé. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très bon à la course à pied au point d'être champion olympique de marathon, vous pourrez courir raisonnablement si vous vous entraînez pendant un an.
Donc il n'y a pas un déterminisme.
Nous avons tous un potentiel. Mm-hmm. On est plus ou moins, on pourrait dire, une sorte de prédisposition à ces émotions positives, etc. Mais tout ça se cultive et de façon considérable.
La question du bonheur, ben, dans les années 60 aussi, par exemple, on interrogeait les gens à ce sujet.
Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ?
Pour moi, d'abord, c'est la paix.
Sur un plan particulier, dans votre vie ?
Sur un plan particulier, le bonheur, bon, ben, c'est la famille, d'abord. Pouvoir avoir des petites choses que je ne peux peut-être pas avoir pour l'instant. C'est tout.
Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ? À quoi ça vous fait penser ?
De l'argent, gagner sa vie honnêtement, vivre impeccablement.
Qu'est-ce que ça veut dire impeccablement ?
Impeccablement, je veux dire, avoir tout ce qu'il faut chez soi.
Qu'est-ce que ça serait pour vous le bonheur ?
Bah, une vie très simple, une vie enfin sans problème, c'était beaucoup dire parce qu'il y a toujours des problèmes.
Et
la vie quotidienne
hein.
est pleine de problèmes, alors vous savez, le bonheur, je pensais que c'était un bien grand mot. Hein.
Voilà, chronique d'un été, Jean Rouche, Edgar Morin, 1960. Christophe André et Mathieu Ricard, est-ce que vous êtes deux hommes heureux ? Est-ce que chaque jour vous baignez dans le bonheur ?
Eh bien non.
Non, mais quelle déception.
Mais c'est du boulot, je crois, le bonheur, effectivement. C'est un de vos auditeurs disait tout à l'heure que le terme capacité au bonheur l'agaçait. Il y a des gens que ça attriste aussi de dire qu'au fond, le bonheur relève en partie d'un effort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous laissons les circonstances extérieures ou notre passé guider notre niveau de bonheur, eh bien, ça sera toujours moins intéressant et moins puissant que si nous décidons que c'est important, que c'est intéressant d'être heureux. Après, nous pourrons parler des moyens pour se rendre heureux. On verra qu'il ne faut pas être centré sur des bonheurs purement égoïstes. Mais si on décide que c'est un enjeu intéressant et important pour nous, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses assez simples à faire pour mieux ouvrir les yeux sur les petites grâces ou les petites chances du quotidien, et que pratiquer régulièrement, là encore, tout ça élève notre niveau de bonheur. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres buts dans la vie qu'être heureux. On peut avoir des objectifs politiques, des objectifs artistiques, des objectifs sociétaux qui font que, au fond, le bonheur n'est pas une priorité pour nous. Pour autant, pour la plupart des humains, être heureux et rendre heureux reste quelque chose de très important et de très recherché.
Et au sens bouddhiste, Mathieu Ricard, alors le bonheur par rapport à la joie même ?
Oui, ben c'est deux choses, le bonheur, le plaisir, la joie, c'est des choses assez différentes. Si vous voyez, le bouddhisme, je crois aussi en psychologie, il n'y a pas un bonheur qu'un grand B. Et c'est ça probablement la plus grosse confusion, c'est que pour nous, ce bonheur, ce n'est pas une chose, c'est un ensemble de qualités humaines. Et chacune de ces qualités peut être cultivée. Ça peut être l'altruisme, ça peut être la robustesse intérieure et extérieure, ça peut être une certaine forme de liberté par rapport à la tyrannie des cogitations, des inquiétudes vis-à-vis du futur, etc. Donc cet ensemble de qualités qui chacune séparément peut être cultivée fait que... Alors en français, le mot « mal-être » est très fort. Bien-être, ça fait beaucoup plus relaxation, etc. Mais en fait, si c'était aussi fort que mal-être au point de vue signification, bien-être, être bien dans sa peau, ça, c'est plus, disons, on comprend mieux la démarche, bien-être en étant altruiste, en étant libre intérieurement. C'est vraiment bonheur, il faut être heureux à tout prix. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'écrivains, comme notre ami Pascal Bruckner, qui dénoncent cette idée d'une euphorie perpétuelle. Il faut que tout le monde saute en l'air, je suis heureux, jusqu'à qu'il s'écroule d'épuisement. Évidemment, ça suit du bonheur en boîte, et ça c'est un leurre.
Christophe André ?
Oui, et puis pour nous, le bonheur, c'est un sujet sérieux, c'est pas une option. C'est pas un petit truc rose bonbon, c'est sérieux. Sans le bonheur, nous ne pourrions pas affronter l'adversité. Quand on voit chez les patients déprimés qui ont perdu leur capacité au bonheur parce qu'ils souffrent d'anhédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir, la vie qu'ils ressentent, la vie qu'ils traversent, elle est épouvantable. Ils ne voient plus que les choses douloureuses, ils sont aveugles aux choses heureuses de leur vie. Donc d'abord, le bonheur nous sert à mieux affronter l'adversité. Deuxièmement, le bonheur nous ouvre au monde. Toutes les études qui sont conduites sur ce qui se passe dans notre cerveau et notre comportement lorsqu'on élève notre humeur, lorsqu'on nous rend un peu plus heureux en labo, il y a des tas de manies pour ça, montrent qu'on devient plus altruiste, on va aider davantage les autres. Donc, tous... Et puis ensuite, troisième point, c'est plus agréable. Notre corps et notre esprit se sentent mieux quand on est heureux, quand on est malheureux. Donc, ça fait des tas de bonnes raisons de se dire que c'est quand même un objectif respectable.
Écoutons Jean Giono, qui lui aussi s'exprime sur le bonheur et la joie.
Le bonheur est un état neutre. Ça n'est pas un état flambant. Ça n'a absolument rien de comparable à ce que nous appelons la joie. Oui. La joie et le bonheur sont des choses tout à fait différentes. Et je crois qu'on va, là... hurler devant cette conversation que nous avons là, parce que on va me dire, mais autour de vous, c'est plein de gens malheureux. Je le sais, je le sais. On va me dire, il y a peut-être des raisons sociales à ce malheur et des raisons sociales à un bonheur. Et c'est là que moi, je cherche peut-être une autre porte de sortie et que je vous disais en commençant cette conversation que pour moi, le bonheur est purement une chose individuelle et pas du tout collective.
Mathieu Ricard, vous voulez commenter les propos de Jean Giono à l'instant ?
Oui, alors il y a une très belle formule qui dit « on saute de joie mais pas de bonheur ». C'est vrai que c'est plus calme, c'est une manière d'être, c'est pas un état momentané. Alors la joie, et notre ami Alexandre Jolien, il est absent aujourd'hui, mais lui met beaucoup l'accent sur la joie, parce que quand il était pendant 17 ans dans une institution pour handicapés, c'est pas le bonheur. Et donc ça lui fait mal de dire « il faut absolument être heureux à tout prix ». Mais il y avait des moments de joie intense avec ses compagnons, etc. Donc c'est vrai que certains ont dit aussi « la joie, c'est le printemps du bonheur, c'est l'express, quand ça se met à fleurir, etc. »
Dans le bouddhisme, c'est l'éveil, au fond, qui est un
Le bonheur ultime, c'est l'absence de souffrance. L'absence de souffrance, c'est l'absence de confusion mentale, c'est l'absence de haine, l'absence d'arrogance, l'absence de saisie et d'attachement. Donc, c'est tout un programme.
Trois amis en quête de sagesse, Christophe André, Alexandre Julien et Mathieu Ricard, chez l'Iconoclaste et Hilary Édition.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Je crois que la volonté est un outil de la vie, mais elle doit pas être au centre de la vie. Parce que moi, la volonté m'a permis de me sauver en m'extrayant de certains déterminismes. Mais la volonté veut toujours plus et autre chose. Et justement, toute sa philosophie, pour moi, c'est de mettre la joie du présent au cœur de la vie. Alors que la volonté, dès demain matin, je vais penser à la FNAC, acheter un livre que j'ai vu à la télé. Ça, on peut être très bien l'esclave de notre volonté. Et grâce à la philosophie, on peut reprendre possession de notre désir. Ce qui n'empêche pas que j'irai quand même à la FNAC demain matin, mais en toute conscience de cause.
Voilà, on voulait qu'il soit également avec nous Alexandre Jolien, hein, puisque c'est le troisième de la bande, Christophe André et Mathieu Ricard, autour de ce livre, Trois amis en quête de sagesse. Alexandre Jolien qui a choisi de partir en Corée, lui. Hein.
Oui, alors c'est une décision courageuse, parce que justement, il en avait un peu assez de toutes ces sollicitations. Il voulait se plonger pleinement dans sa vie spirituelle. Ouais. Il a trouvé un maître qui unit aussi ses propres aspirations, à la fois un jésuite zen, maître zen, faut le faire. Ouais. Et donc, pour lui, c'était le mélange parfait, ou l'union parfaite de ce qu'il cherchait, avec femme et enfant. Donc c'est à saluer cette force d'âme d'avoir décidé ainsi.
Ouais. Christophe André, les retraites aussi, vous en faites régulièrement. Vous parlez même de retraite silencieuse, c'est-à-dire sans parole du tout, c'est
ouais,
ça?
C'est délicieux.
Pendant combien de temps?
Oh, une semaine ou deux, oui, oui. Enfin, je suppose
j'ai fait ça pendant bien plus des années.
Voilà, donc ouais. Mathieu, lui, il a dû faire des trucs. C'est quoi ton maximum de retraite silencieuse, Mathieu?
Oh, presque un an.
Un an sans du tout adresser la parole à personne.
C'est pas le problème, parce que les Français, comme dit Alexandre, Radio Mental FM, ça continue.
Ouais,
Mais pour revenir au silence, c'est vrai que c'est un peu comme le jeûne. Vous savez, quand on jeûne, on s'aperçoit que c'est pas seulement une contrainte, une privation, mais aussi une libération et une découverte. Et observer le silence fait que, on découvre qu'il y a des tas d'autres choses que la parole, des tas d'autres moyens de rentrer en contact avec les autres ou avec le monde que la parole. Et on découvre aussi, quand on sort du silence, comme quand on sort du jeûne, le goût de la vraie parole, sans bavardage, sans superficialité, comme quand on cesse de jeûner, on redécouvre le vrai goût des aliments.
Vous parlez d'ailleurs de l'art de l'écoute hein, dans le livre. D'ailleurs, Mathieu Ricard, c'est ce qui frappe souvent chez le Dalai Lama, c'est ce que vous dites, c'est sa capacité d'écoute en toutes circonstances.
Ah oui, hein. Puis il y avait des gens complètement qui rencontrent comme ça par hasard dans un aéroport, il est pleinement avec cette personne. Et même dans une conférence, le nombre de gens qui disent « j'ai l'impression qu'il m'a regardé pendant toute la conférence ». Mais cette présence, et qui est extraordinaire, et spontanée, et reflète une qualité d'être, justement.
Nadine nous écrit « Comment faire pour que les grandes institutions que les hommes ont créées aient, elles aussi, une certaine sagesse? Comment faire pour que certaines corporations développent une sagesse au-delà d'une éthique, ce qui pourrait rayonner dans la société civile ?»
Un sacré programme.
Moi, je pense. Enfin, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. D'abord, peut-être que nous valorisions davantage les sages. C'est vrai que notre société met beaucoup en avant des modèles de succès, succès sportif, succès intellectuel, succès financier, succès politique. Mais au fond, les grandes figures de sages, peut-être elles sont moins valorisées. D'ailleurs, même pas les grandes figures, parce qu'il y a quelques sages médiatiques. Mais au fond, le sage du coin de la rue, il y a des tas de gens qui sont des sages anonymes, très discrets, et que nous devrions valoriser
davantage. Vous parlez de vos patients, d'ailleurs, vous,
oui,
Christophe André.
Oui, il y a des tas... Vraiment, moi, je m'inspire de tas d'humains que je croise. Et le deuxième point, c'est de comprendre que la sagesse ne se convoque pas. C'est une propriété émergente qui découle de la stabilité émotionnelle, des capacités de recul, de l'ouverture au monde. Si on favorise chacune de ces qualités, si on cesse de persécuter les gens à leur boulot, si on leur permet d'avoir du temps, de se poser, de s'ouvrir aux autres, la sagesse émergera, à mon avis.
Développement personnel ou vie éthique des philosophes de l'Antiquité, quelle différence demande Nicolas dans son message, Mathieu Ricard?
Si on regarde les philosophes de l'Antiquité, ce que disait par exemple Ado et aussi mon père Jean-François Revel, c'est qu'ils étaient des sages, ils n'étaient pas seulement des philosophes, c'est-à-dire qu'il y avait trois choses, que puis-je connaître, comment puis-je diriger la cité et quelle est la meilleure manière de mener mon existence? Et d'après mon père, la science a répondu à la première question que je puisse connaître, la démocratie est la deuxième, mais la philosophie, d'après lui, avait perdu cette idée que comment mener mon existence. Après Spinoza, il a dit, les philosophes sont devenus des grands intellectuels qui ont fait des constructions absolument immenses pour réexpliquer le monde, qui étaient totalement dénués d'une sorte de sagesse. Et de ce fait, on peut avoir des mathématiciens, des philosophes, des jardiniers qui ne sont pas sages du tout, Et on peut être un très bon philosophe en étant une vie qui n'est pas du tout un exemple. Alors que dans, en tout cas dans le domaine de la vie spirituelle et dans le domaine des sages de l'Antiquité, ben le messager doit être le message. Sinon, on vous dit, ben faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça intéresse, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors.
Thierry dit ceci, le bouddhisme tire son importance de la vacuité des vies occidentales, métro, boulot, dodo, consumérisme. Qu'en pensent vos invités ? Christophe André ou Mathieu Ricard.
Si vous voulez, c'est vrai que des scientifiques, alors pour reprendre la casquette scientifique, ont bien montré que les gens qui sont le plus portés à la consommation, on peut dire une vision matérielle, c'est extrinsèque de la recherche du bonheur, c'était fait sur 20 ans avec 50 000 personnes, ils sont en général moins heureux, ils cherchent un bonheur hédonique, c'est-à-dire des plaisirs et moins de satisfaction profonde, ils sont en moins bonne santé, ils ont moins de vrais amis, ils sont moins préoccupés par les questions globales comme l'environnement, donc en gros... Si vous voulez, c'est pas une très bonne affaire. Et la publicité, il y a encore un prix Nobel d'économie que j'ai rencontré récemment, qui a écrit un livre là-dessus. Il dit en gros, c'est de vous faire acheter ce que vous avez pas, ce dont vous n'avez pas besoin. Donc ça, vous êtes mal parti aussi.
Christophe André, sur la méditation, on a le sentiment qu'on la met un peu à toutes les sauces, là, quand même, en ce moment. Est-ce que c'est une solution miracle à tous les problèmes?
Non, mais c'est vrai qu'il y a une mode de la méditation, moi, qui m'est plutôt sympathique, parce qu'on a mis tellement de temps à la faire reconnaître, à l'implanter dans le monde des soins, à l'école, que je suis plutôt content qu'on en parle beaucoup. Et, mais comme tous les phénomènes de mode, parfois, on crée des attentes irréalistes. On a des personnes qui pensent que ça va être une panacée, que ça peut tout solutionner. La méditation, c'est un très bon moyen et de pacification intérieure et de discernement intellectuel. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous rend partie plus sage. Ça nous apprend à observer ce qui se passe en nous, à observer ce qui se passe autour de nous, à agir avec discernement. Et en ce sens, c'est une pratique vertueuse qui nous pousse vers le meilleur. Mais ça n'est en rien une méthode miracle.
Alors la méditation qui est basée très concrètement sur la respiration, Mathieu Ricard, est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça le problème ? C'est qu'on a oublié de bien respirer ?
Bah, on sait très bien, si vous prenez trois grandes respirations, c'est très bon pour votre nerf vague, vous vous calmez, etc., etc. Mais c'est pas que ça. La respiration, c'est un objet extrêmement simple et toujours présent pour votre attention. Et l'attention est un outil nécessaire à la méditation, mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. La méditation, c'est après de cultiver cet espace, cette liberté intérieure, cette force d'âme, cette robustesse, cultiver l'altruisme et bien d'autres qualités. Mais il y a aussi, comme disait Christophe, une forme de méditation liée à la lucidité, c'est une méditation analytique. Démêler les mécanismes du bonheur et de la souffrance, c'est aussi une forme de méditation.
Vous poursuivez vos travaux avec les neuroscientifiques justement en situation de méditation avec vos capteurs sur la tête.
Plus que jamais, je crois que j'ai fait maintenant 120 heures dans des IRM, donc... Ouais. Je continue. Oui.
Et la science valide au fond ce qu'on savait déjà.
La science a montré beaucoup de choses intéressantes, notamment Tania Singer qui va être à Paris ces jours-ci, a montré une différence fondamentale entre l'empathie et la bienveillance, qui peut avoir des répercussions très importantes sur le phénomène du burn-out dans le milieu hospitalier et parmi les travailleurs sociaux.
Et on arrive à voir la nuance par l'imagerie, justement.
Et on peut remédier à la détresse empathique en cultivant la bienveillance.
Trois amis en quête de sagesse, vous en parlez justement, de l'altruisme aussi, évidemment, dans ce livre à la réédition et l'iconoclaste. Et puis un petit mot très rapidement, Christophe André, sur cet ouvrage, Le Dalai Lama, l'enseignement du Bouddha, chez Odile Jacob, qui paraît.
Oui, c'est la traduction d'un livre écrit par le Dalai Lama et une non-bouddhiste qui a la grande vertu de présenter l'essentiel des enseignements du Bouddha dans un langage bouddhiste, avec beaucoup de métaphores très fleuries, très pédagogiques. Et c'est assez rare, parce que souvent, les bouquins sont écrits par des occidentaux. Et là, on a la langue originale, finalement, du bouddhisme, il me semble.
Un seul maître de nombreux disciples, donc cet ouvrage qui paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus cet après-midi. Dans la tête au carré, lui aussi, sur la voie de la sagesse, Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai à relire Sénèque, parce que ça répond à ce que vous disiez.
Voilà. Il disait, c'est pas qu'on ne dispose pas beaucoup de temps, c'est qu'on engage beaucoup.
Voilà. Alors, Affaires sensibles, c'est la lutte du Larzac dans les années 70. Et Léon Maillet et Michel Vincent seront nos invités. Ils ont participé à cette lutte, sont des témoins directs.
Allez, après les infos.
Après les infos.
Merci beaucoup.